Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Xavier Darcos. Bonjour Xavier.
Bonjour mon cher Étienne.
Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des lettres, mais des lettres non pas de littérature, mais des lettres comme figure géométrique, si je peux me permettre. Alors je voudrais savoir si toi, tu y accordes une certaine importance ou pas du tout, soit dans les livres que tu écris, quand tu les publies, est-ce que pour toi c'est important ? Une discussion avec l'éditeur, plutôt Garamond que Helvetica ? Ou est-ce que tu as des choix particuliers ? Ou est-ce que c'est important pour toi quand tu lis ?
Alors d'abord, moi je dois dire que mon rapport avec les lettres est un rapport en effet très physique, comme tous les enfants d'ailleurs. Les premiers souvenirs que j'ai, ce sont des abécédaires avec des lettres qui sont figurées comme des sortes d'animaux, d'objets, des demi-lunes. Et je pense même que ce sont mes premiers souvenirs. Donc la réalité du fait que la lettre précède au fond la langue est une réalité qui est celle de toute expérience de jeune enfant qui découvre la lecture.
Die Jungen sperrt die Ohren auf.
Il me semble que l'enfant, une fois qu'il a capturé ses lettres, en quelque sorte, on les oublie et elles passent dans l'inconscient.
Peut-être plus aujourd'hui que naguère, parce que le culte de la lettre bien formée, en romain comme en italique, est resté très présent dans l'école de la République jusqu'aux fin des années 60 et 1970. Et moi, j'ai été à l'école primaire entre 50 et 58.
Donc, tu as appris la bâtarde et l'anglaise.
Absolument. Et les plaies et les délièvres. Et donc, la formation là, de la lettre joue un rôle d'ailleurs peut-être excessif avec les plumes sergent-major, avec les encriers. Moi, j'ai connu ça.
Les tâches.
Les tâches qu'il ne fallait pas faire. Et notre professeur était relativement rigoureux. Et c'était un critère très important de jugement sur les enfants. Ce qui créait des problèmes sans nom aux enfants dyslexiques ou maladroits, alors qu'ils pouvaient être extrêmement intelligents. Et ça a duré très longtemps. L'idée que la lettre est d'abord une sorte d'objet autonome et qu'il faut y prêter attention est une idée qui renvoie chez moi à ma première formation, à quoi que ce soit, si je puis dire, au tableau où on allait faire des lignes de F ou que sais-je, ou des majuscules.
L'alphabet écrit au-dessus du tableau.
Absolument.
Qu'on regarde tous les jours.
Tous les matins. Monsieur Zampa, notre professeur de 9e, tous les matins faisait une lettre. Alors on avait le A, le N, le B, on devait tous les refaire, etc. Et surtout, la première lettre était le début d'une citation, d'une formule morale qu'on allait commenter. Alors B, bien mal acquis, ne profite jamais. Et donc là, il y avait la belle lettre, et le reste était écrit plus petit. Donc vraiment, c'était l'école à l'ancienne, mais c'était une école où l'écrit avait un rôle absolument disproportionné, peut-être, par rapport à...
Ah, tu penses disproportionné ?
Enfin, énorme, parce que...
Tu regrettes cet apprentissage ?
Non, mais ce que je sais, c'est que si tu faisais une faute d'orthographe, tu pouvais dire des choses intelligentes, c'est plus personne ne te lisait. Et comme je disais pour les dyslexiques, il y avait des dyslexiques totalement brillants, intelligents, capables, etc., mais qui étaient jugés comme des cancres, parce que ce qu'ils fournissaient à l'écrit n'était pas satisfaisant. Tu sais qu'au Québec... Un élève dyslexique, il est considéré comme handicapé, et donc il a le droit d'avoir quelqu'un qui écrit à sa place lorsqu'il passe l'examen. En France, on est loin de ça encore, hein.
On fait des progrès.
Bien sûr qu'on a fait des progrès beaucoup et que l'oral a pris une place très importante.
Parle-moi de l'écriture avec un pouce sur un téléphone.
D'abord, je m'en sers très mal. Moi, j'ai des trop gros doigts, je ne sais pas. Je ne suis pas très habile avec les objets téléphoniques, etc. Mais en revanche, j'ai commencé extrêmement tôt à utiliser le traitement de texte, l'ordinateur, et au point même que maintenant, je fais pratiquement tout courrier, tout texte en tapant. En fait, j'écris beaucoup moins qu'autrefois. D'ailleurs, qui n'écrit pas moins qu'autrefois? On ne fait plus de lettres, les belles formules. Bon, aujourd'hui, on reçoit un SMS.
Mais est-ce que tu choisis une police de caractère particulière quand tu
ouvres
ton ordinateur?
Alors moi, je suis toujours dans Times New Roman, parce que je la trouve propre, claire, lisible, facile, un peu solennelle. Et si je veux donner un caractère particulier, si c'est une lettre personnelle, privée, je prends une anglaise quelconque, une italique, pour donner l'impression d'imiter un peu d'écriture.
Quand tu lis un livre, est-ce que la police est importante pour toi?
En tous les cas, oui, bien sûr. J'aime beaucoup les beaux livres et j'aime beaucoup la beauté formelle des lettres qui sont choisies et d'écriture. Voilà pourquoi je n'ai jamais été très grand lecteur de livres de poche. Je trouve toujours c'est négligé, c'est assez, ça écrit trop vite, c'est un caractère qui me paraît négligé au fond.
Sans empattement souvent.
Souvent sans empattement de surcroît et avec des interlignes quand même très resserrées. Et du coup, je ne suis pas un grand fanat des livres de poche. Et j'aime autant qu'il est possible lire des livres anciens. J'ai même des difficultés avec la Pléiade, de ce point de vue-là, à cause de la dimension de la lettre. Je trouve que ce n'est pas facile. Comme je dis toujours, la Pléiade, c'est formidable, sauf qu'on ne peut pas lire la Pléiade au lit. Il faut que ça soit posé sur une table. Alors, c'est embêtant quand même, parce que moi, je lis beaucoup le soir. Je m'endors avec un livre. Moi, je ne regarde pas la télé. Bon. Et donc, j'ai besoin de... Je lis le soir. Je lis beaucoup même. Et donc, je lis les Pléiades. Bon, en ce moment, j'ai reçu la dernière édition de Lewis Carroll. J'ai commencé hier soir. C'est pas pratique à lire au lit.
Tu veux dire de Charles Dodson? Tu as lu ses textes mathématiques?
Mais je sais que c'est un grand mathématicien, un très grand logicien. Et des raisonnements logiques. Bien sûr, j'ai lu ça.
Il y a deux livres que je te recommande, oui. Entre guillemets, un peu mathématiques. Le premier s'appelle Pillow Problems, parce qu'il avait des problèmes de sommeil.
Oui, je sais.
Et donc, il fallait trouver un moyen de s'endormir. Alors, il a écrit un livre dans lequel il liste un nombre de problèmes de maths qui sont censés être faisables de tête, la lumière éteinte. Et l'autre, c'est plus intéressant, c'est Tangled Tales. C'est des histoires qui sont destinées aux petits garçons et aux petites filles, tu ne seras pas surpris.
Oui.
Et qui contiennent une petite énigme mathématique qui est cachée dans la petite histoire. C'est très intéressant. Il dit... On cache l'énigme comme un médicament dans la confiture.
En tout cas, je sais que ça existe, parce que c'est d'ailleurs dans l'édition Pléiade complète, mais j'avoue que je ne les ai pas regardés. Mais je vais regarder à la fois comment on s'endort sur son oreiller, avec des énigmes, et celle-ci aussi.
Manch kahler Lumpenhund, der dieses alles nicht versteht, spricht ja. Ut re mi fa sol la, sae tota musica.
Qu'est-ce que tu sais sur l'histoire des lettres en rapport avec la politique?
Ce que je sais, c'est que l'écriture, l'utilisation des lettres, même dans leur format, a toujours été un souci des grands communicants. La politique, surtout peut-être dans ses formes les pires, dès qu'elle se mêle de propagande, elle utilise des lettres.
On reconnaît très facilement les lettres, les polices de caractère, disons, fascistes.
Ben, c'est évident. Ou quand, sous Pétain ou sous le régime nazi, d'une manière ou d'une autre, on pratique des campagnes antisémites, on utilise des formes de lettres qui peuvent paraître plus ou moins hébraïques. Souviens-toi de l'affiche du juif sus, par exemple, qui était dans une sorte de lettre inconnue, en fait, qui était censée représenter une sorte d'alphabet hébraïque et de surcroît cacher quelques arcanes. Enfin bon. Donc, évidemment, la lettre fait partie d'un moyen de communiquer. Les deux S de SS qui sont faits dans des Z côte à côte.
Tu sais bien sûr que c'est Hitler lui-même qui a interdit la graphie gothique en allemand.
Oui.
Parce qu'elles avaient, selon lui, un caractère juif.
Oui. Oui, je savais. Il y a une idéologie cachée dans la lettre, pense au fond le fasciste ou le totalitaire. Il faut rééduquer par l'écriture aussi, et c'était absolument évident.
Il y a deux polices de caractère dont je ne sais pas si tu les connais. Toi, tu devrais connaître puisque tu as été au gouvernement. C'est la police créée à la demande de notre président Macron.
Non, je ne connais pas.
Qui s'appelle la police Marianne.
Non. Et alors, qu'est-ce qu'elle est partie ?
En principe, est réservée aux écrits du pouvoir.
Et qu'est-ce qu'elle indique,
toi ? C'est une police qui est particulière et qui, en principe, je crois que tu la connais, parce que les polices qu'on montre, par exemple, les papiers à lettres ou de tous les ministères que tu dois fréquemment lire, sont écrits en Marianne. Et en principe, les ministères sont obligés d'écrire avec la police Marianne.
Comme c'est curieux. C'est même un peu inquiétant, non ?
Es da singe, so klingt es wunderschön. Wenn du schon warst, es da singe, so klingt es wunderschön. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So klingt es wunderschön. So klingt es wunderschön.
Il y a eu une période dans les années 75 où l'éducation nationale était devenue un peu piquée de linguistique et de sémiotique. Et on travaillait beaucoup sur ces questions. L'iconicité dans les signes verbaux, ça s'appelait exactement. Et donc, on s'inquiétait précisément de savoir quels étaient les bons formats de lettres qu'il fallait mettre dans les livres scolaires, de faire en sorte qu'il y ait une diversité pour qu'il n'y ait pas une sorte d'idéologie de la lettre qui s'impose. Enfin, il y a eu une période très à la mode sur ces sujets qui a produit beaucoup de textes déjà obscurs et restés ignorés, à dire vrai, mais ça prouve que ce souci existait quand même.
Denn wenn ich meine das und Stimme erhebe.
Et toi, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu penses de l'enseignement de l'écriture aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'il faut continuer à apprendre à écrire en attaché ? Ou est-ce qu'il faut écrire en script ?
Non, je pense qu'il faut continuer à apprendre à écrire en attaché parce qu'on pense ce qu'on écrit. De même que tous ceux qui nous disent « mais c'est pas grave, les enfants, s'ils ne lisent pas le livre, ils vont l'entendre en audio-livre, ils peuvent aller en bande dessinée, ou ils vont savoir ce que ça raconte. » Non. Comme dit notre confrère Olivier Houdet, la disparition de la vraie lecture, c'est-à-dire de l'attention à chaque lettre qui forme un mot, à chaque mot qui se relie au suivant, c'est un exercice indispensable à la structuration neurologique du cerveau et de l'attention. Et donc croire que tout ceci peut être remplacé par je ne sais quel message de TikTok, c'est pas vrai. Et alors pour l'écriture, je pense la même chose. Moi, je pense, d'ailleurs, même quand nous le faisons, quand nous sommes obligés d'écrire, nous pensons beaucoup mieux ce que nous écrivons, parce que d'abord, on est attentif à écrire proprement, à ne pas faire de fautes, et ça va plus lentement. On sait qu'on ne pourra pas corriger, on ne pourra pas faire CTRL-Z pour revenir en arrière et repartir. Et donc, il y a une vertu profonde de l'écriture qui est celle du rapport entre le cerveau et la communication. Et donc, je suis... quitte à paraître vieille réac, ce qui d'ailleurs est plutôt vrai en termes d'école primaire, je trouve que rien ne remplace ça.
Monsieur le chancelier de l'Institut, que penses-tu de la police de caractère de l'Institut ?
Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, en fait, j'ai pas...
Alors, parce qu'il
y a,
validé.
Il y en a plusieurs. Oui, alors
non, il y en a une qui s'appelle Institut de France.
Oui, oui, je sais. Alors, c'est une police de caractère qui nous avait été proposée par le cabinet de communication, qui s'appelait Zénith, si je ne m'abuse, avec qui nous avons négocié ça. Le but, quand même, c'était de faire quelque chose qui n'était pas partout. Après, est-ce que ça apporte une signification par rapport à l'Institut ? J'en sais rien. Mais c'était plutôt de faire quelque chose qui nous fût propre et qui, par ailleurs, rejoignait la stylisation des formes que proposait Zénith pour l'ensemble de notre Minerve, nos documents, nos symbolisations de toutes sortes. Je me souviens qu'il y avait plusieurs propositions et que tu étais là d'ailleurs sans doute, oui, puisque nous l'avons tous choisi ensemble et qu'on a fini par choisir pour une raison que j'ai oubliée, mais enfin qui nous paraissait s'imposer.
Moi j'étais d'accord avec celle-là parce que c'était la plus proche de la police dessinée par l'Académie des sciences, fin XVIIe siècle, commandée par Louis XIV. Et qui s'appelle le Romain du Roi.
Siti dirunt in proverbum, sus Aristoteles, Plato et Euripides.
Pour terminer, question que je pose toujours, et je crois que tu la connais, mais je crois que je connais déjà la réponse, puisque tu en parles dans ton dictionnaire amoureux de l'école. Donne-moi quelques morceaux de musique que tu aimes et qui sont directement reliés.
Y a un motet très célèbre de Mozart que chantent encore les chorales et qui... peut-être qu'il y en a un moins connu. Il y a une petite cantate de Telemann, si je m'abuse, qui s'appelle « Le maître d'école » où le maître d'école fait chanter la chorale et elle commence à s'agiter un peu, à plaisanter. Alors il reprend en main, il dit « Nein, nein », il les fait rechanter et à la fin, il chante l'alphabet avec une musique extrêmement belle. C'est très beau, c'est très réussi.
Merci beaucoup, Xavier.
Si, si, dirunt in profundum, sumus Aristoteles, Plato et Euripides. Si, si, dirunt, si, si, dirunt in profundum, sumus Aristoteles, Plato et Euripides. Si, 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 dirunt in profundum, sumus Aristoteles, Plato et Euripides.
Une bien jolie cantate Der Schulmeister in der Singschule, attribuée jusqu'en 1995 à Telemann, jusqu'à ce que quelqu'un émette des doutes et l'attribue plutôt à Christopher Ludwig Ferré.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.